On le présente parfois comme l'empereur de toutes les maladies. Il inquiète car il est le symbole du dérèglement de nos cellules et du dysfonctionnement de la mécanique de la vie. On parle de lui au singulier alors qu'il est pluriel et protéiforme. Le dossier de la tête au carré s'intéresse donc au cancer cet après-midi avec mon invité, l'oncologue Hugues de Thé, qui est à la fois médecin et chercheur. Ses travaux récompensés dans le monde entier ont permis de mettre au point de nouvelles approches thérapeutiques, en particulier dans le traitement d'une forme rare de leucémie. C'est l'occasion avec lui de comprendre dans un instant ce qu'est le cancer, comment travaillent les chercheurs pour en comprendre parfaitement les mécanismes et mettre au point donc de nouveaux traitements. J'attends vos messages, toutes vos questions sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science, aujourd'hui la baisse de la quantité d'oxygène dans les océans qui inquiète beaucoup les chercheurs.
Oui, 2% d'oxygène en moins sur 50 ans, voici le résultat publié aujourd'hui, et une baisse qui devrait continuer à cause du réchauffement climatique. La vie dans les océans est sous pression et on en parle dans un instant avec l'océanographe Jean-Pierre Gattuso.
Céline Hillard réalise cette émission préparée aujourd'hui par Pierre de Certaines.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Hugues de Thé.
Bonjour Mathieu Vidard.
Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin-chercheur en oncologie, cette discipline qui travaille donc sur les cancers et les tumeurs. Pourquoi, malgré l'avancée des connaissances, l'homme n'a toujours pas réussi à vaincre toutes les formes de cancer ?
Bien parce que, comme vous l'avez très bien dit, il y a de nombreux cancers et on se dirige aujourd'hui vers des traitements à la carte. Donc pour certains cancers, on a trouvé la bonne solution, pour d'autres, on cherche.
On va essayer de comprendre avec vous ce qui est vraiment qui est cet ennemi de l'intérieur, ce qui caractérise cette maladie. On va beaucoup parler du désordre de la vie et puis on évoquera bien sûr vos découvertes autour entre autres de la leucémie avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent donc en ce moment sur le site de l'émission. À tout à l'heure.
Merci.
En 50 ans, le niveau global d'oxygène dans les océans a donc baissé de 2% et cela va continuer. Un résultat très attendu par les scientifiques du climat et une mauvaise nouvelle donc qui s'ajoute au phénomène déjà bien connu de l'acidification. La vie dans les océans sous pression et qui pourrait bien décliner. On en parle avec vous, Jean-Pierre Gattuso. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes océanographe pour le CNRS, au laboratoire d'océanographie de l'Université de Villefranche-sur-Mer. Alors, jusqu'à maintenant, on entendait moins parler de la baisse du niveau d'oxygène dans l'océan que de son acidification. C'est une découverte récente ?
Non, on sait depuis assez longtemps que l'oxygène a tendance à diminuer dans l'océan, mais c'est la première étude qui montre, qui est absolument globale, sur tous les océans, ainsi que jusqu'au fond en fait des océans. Tout le volume de l'océan a été estimé, et donc c'est la première étude de très grande ampleur.
Qu'est-ce que les chercheurs allemands qui publient cette semaine-là dans la revue Nature apportent de nouveau ? C'est vraiment cette globalité des mesures partout ?
Absolument, c'est cette globalité. Ils ont réussi à constituer une base de données extrêmement importante, très détaillée, sur beaucoup d'océans. Et ils montrent donc, comme vous l'avez dit en introduction, cette diminution globale de 2%. Mais il faut signaler que cette distribution n'est pas est inégale dans les océans. Par exemple, l'océan Arctique, la concentration d'oxygène a baissé de 7% dans l'océan Arctique.
7%, c'est un chiffre énorme.
Oui, c'est énorme. Et alors, ça, ils n'expliquent pas vraiment pourquoi dans l'Arctique, mais je suspecte que c'est dû au fait que l'Arctique se réchauffe plus vite que les autres océans, et donc la perte d'oxygène dans l'Arctique est donc supérieure dans les autres océans ou mers.
La baisse du niveau d'oxygène est vraiment directement liée au réchauffement en lui-même, à la température ?
Oui, alors en partie. En fait, dans l'océan, il y a deux sources d'oxygène. Il y a l'atmosphère. Quand l'eau de mer est en surface, elle se charge d'oxygène, parce qu'il y a beaucoup d'oxygène dans l'air. Et l'autre source, c'est la photosynthèse, la production d'oxygène par les plantes. Et en fait, l'eau chaude contient moins d'oxygène que l'eau froide. Et donc le réchauffement de l'eau a tendance à faire perdre de l'oxygène par les océans. L'eau de mer se charge moins quand elle est en surface, quand l'eau est chaude, que quand elle est froide.
Alors, bien sûr, quand on parle d'oxygène, on pense tout de suite à la vie. Est-ce qu'il y a des formes de vie, des organismes qui sont plus menacés par cette baisse que d'autres ?
Quasiment tous les organismes eucaryotes sont affectés par cette diminution d'oxygène et très très peu survivent dans des zones quasi anoxiques ou anoxiques. Et donc, il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. On le voit d'ailleurs dans les eaux côtières, hein, pour des raisons différentes. Dans les eaux côtières, on a souvent des phénomènes, ou dans les rivières, hein, des phénomènes où on voit les poissons le ventre en l'air. C'est dû à la diminution d'oxygène qui est due là à la pollution et pas au réchauffement ou au changement de circulation océanique.
Ouais, Jean-Pierre Gattuso, justement, vous parliez des 7% dans le cas précis de l'Arctique. Est-ce qu'on note dans cette région du monde une baisse sensible de la biodiversité marine, par exemple ?
Alors, c'est pas une zone qui est très bien étudiée, l'Arctique, hein, pour la biodiversité marine. On a très très peu de données. Il y a peu de campagnes et on a très très peu de recul. Donc non, on n'a pas mis en évidence une diminution de la biodiversité marine encore dans l'Arctique.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que ça impacte tout particulièrement cette région du globe ou pas?
Probablement, mais en fait, il faut placer aussi cette diminution de l'oxygène dans le contexte global de la crise environnementale qui affecte l'océan. Hein, l'oxygène diminue, on vient de le dire. L'acidité de l'océan augmente, vous l'avez dit en introduction, et la température se réchauffe. Donc ce trio forme un cocktail qui est particulièrement nocif pour les organismes marins. D'ailleurs, dans le passé, toutes les extinctions majeures, il y en a eu 5 dans le passé géologique, toutes les extinctions majeures ont été liées en fait à une acidification, une diminution de l'oxygène et un réchauffement de l'eau. Donc on voit là quelles sont les conséquences que ce trio peut avoir dans le futur.
En ce qui concerne le CO2 atmosphérique, on est capable de faire des scénarios pour 2050, pour 2010. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour l'oxygène dans l'eau ?
Alors oui, dans un article qu'on a publié il y a 2 ans avec notamment Laurent Bopp du CNRS, Laurent a un modèle qui l'a fait tourner, qui a projeté en fait une diminution de l'oxygène global dans l'océan de l'ordre de 2 à 3% globalement d'ici 2100. Et on se demande maintenant, à la lecture de cet article paru aujourd'hui, si on n'a pas sous-estimé cette diminution future de l'oxygène, parce que s'il a déjà diminué de 2% globalement depuis 1950, alors que le réchauffement de la température de l'eau et les changements de la circulation océanique sont finalement assez récents, peut-être qu'on a effectivement sous-estimé la diminution future.
Il faut s'attendre vraiment à une baisse de quantité de vie dans l'océan, sous toutes ses formes ?
Alors, c'est extrêmement difficile à prévoir. Alors là, donc, il faut prévoir d'abord l'évolution de ces paramètres dans le futur, et puis de prévoir aussi l'impact que cela va avoir sur la biodiversité. Donc, on sait que des espèces vont disparaître, c'est sûr, mais les espèces vont aussi se déplacer, vont bouger dans l'océan. On le voit déjà aujourd'hui, hein, avec un déplacement de beaucoup d'espèces vers les pôles, vers des eaux plus fraîches. De là à projeter la diminution de la biodiversité, on n'en est pas encore là.
Ouais. Vous êtes très prudent quand même, hein, Jean-Pierre Gattuso.
Ben, je suis prudent, mais en même temps, je vous dis que dans le passé géologique, on a eu des extinctions avec ce cocktail, ce trio infernal de ces 3 paramètres qui sont gravement affectés par les activités humaines. En même temps, c'est difficile de se projeter au-delà de quelques décennies. Et donc, je pense qu'il faut être prudent, mais tout en étant extrêmement inquiet. Mais en même temps, on a les réponses, on a les clés pour... ou le mode d'emploi pour contenir cette évolution. On sait ce qu'il faut faire. Là, il n'y a pas d'incertitude du tout. Si l'accord de Paris est mis en œuvre de façon complète, on sait qu'on va stopper l'évolution de l'augmentation de la température, de la diminution du pH, etc.
On va inverser la tendance ou on ne fera que retarder l'échéance ?
Alors, on va stabiliser. C'est-à-dire que pour revenir, par exemple, pour le pH, pour l'acidification, il va falloir très longtemps avant qu'on revienne au pH global en surface de, disons, des années 1850. Il va falloir plusieurs centaines d'années. Mais par contre, on peut, avec une mise en œuvre complète de l'accord de Paris, stabiliser complètement le pH et éviter qu'il ne continue à baisser comme il est en train de le faire.
Est-ce qu'un océan moins oxygéné pourrait être profitable à d'autres types de vie, des micro-organismes ou des choses comme ça ?
Alors oui, il y a des bactéries qui adorent les zones anoxiques. Et donc, d'ailleurs, on n'a pas relevé, mais dans l'article, les collègues allemands montrent que les zones anoxiques, c'est-à-dire dépourvues d'oxygène, ont quadruplé en volume depuis 50 ans, en fait. Et il se trouve que il y a des bactéries qui sont extrêmement friandes de ce type de conditions. Et il se trouve que ces bactéries, en fait, produisent du protoxyde d'azote, qui est un gaz à effet de serre qui est 300 fois plus puissant, que le CO2. Donc une réattraction positive sur la température.
Est-ce que ce phénomène est très rapide, Jean-Pierre Gattuso? Est-ce que cette baisse a surpris les scientifiques?
Moi, j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on ait, en 50 ans comme ça, un quadruplement du volume des zones anoxiques. Ça m'a beaucoup étonné. En même temps, je ne sais pas mon domaine de recherche personnel, mais moi, je suis très surpris. De la même manière, mais en fait, finalement, ce n'est pas si surprenant que ça, parce que quand on regarde l'évolution du pH et de la température, tout ça, ça va très très vite. Pas depuis 1950, mais depuis la fin des années 70, on voit que tous ces paramètres, oxygène, pH, température, changent à une vitesse qui est extrêmement grande, et beaucoup plus grande d'ailleurs que lors des épisodes d'extinction dont je parlais tout à l'heure dans le passé géologique.
Voilà, donc cette baisse de 2% du niveau global d'oxygène dans les océans depuis 50 ans. Publication Nature, donc qui paraît aujourd'hui. Jean-Pierre Gattuso, merci beaucoup pour vos explications.
Merci à vous.
À bientôt et Axel, à demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un autre chiffre peu réjouissant avec les Alpes qui pourraient perdre 70% de leur neige d'ici la fin du siècle. C'est le résultat d'une étude menée par des chercheurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. La diminution se limitera à 30% si nous arrivons à limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, là aussi, d'ici 2100. L'augmentation des précipitations prévues dans l'avenir ne compensera pas la perte de neige du fait de l'augmentation donc des températures, phénomène aggravant, car la pluie remplacera la neige dans certaines zones et accélérera la fonte des massifs. Selon les prévisions, à la fin du siècle, skier ne sera possible qu'au-dessus de 2500 mètres. Une catastrophe à venir, car l'économie des régions alpines est majoritairement dépendante du tourisme hivernal. Les antibiotiques plus souvent prescrits lorsque les patients les demandent, c'est ce qu'ont constaté des scientifiques en étudiant des prescriptions de 436 médecins britanniques confrontés à un diagnostic incertain nécessitant normalement une période d'observation. L'étude montre que de nombreux médecins prescrivent quand même les antibiotiques spécialement quand leurs patients les leur demandent. Les chercheurs entendent montrer que des progrès sont encore à faire concernant la prescription tant chez les patients que chez les médecins. En effet, cette consommation inutile d'antibiotiques est une des principales causes d'antibiorésistance qui est considérée aujourd'hui comme un problème majeur de santé publique. Hugues Deté, un commentaire du médecin que vous êtes. Est-ce que vous cédez à la pression des patients dans le domaine?
Je ne prescris pas, donc je ne suis pas tenté.
Ouais. En tout cas, un problème à prendre en compte, visiblement, selon les chercheurs. Une planète qui peut faire clignoter son étoile, c'est la dernière info du jour. Jusqu'à aujourd'hui, cela semblait impossible, mais c'est bien ce qu'ont constaté des astrophysiciens européens et nord-américains. En observant la luminosité d'une étoile de la constellation d'Hercule, les scientifiques ont remarqué que la fréquence de certaines de ses pulsations était identique à celle de l'orbite d'une de ces gigantesques planètes qui fait 8 fois la masse de Jupiter. Ce phénomène a déjà été observé entre deux étoiles, mais jamais entre une étoile et une planète. Allez, on parle cancer dans un instant, donc avec mon invité, l'oncologue Hugues Deté.
La benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, svalutation. Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Col salario di un mese compri solo un caffè, gli stati sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation, svalutation. Siamo in crisi ma senza andare in là, l'America è qua.
In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa. Che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché tu
vuoi fare il gallo, poi fai l'uovo con me sulle station. Oh, sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è. Quando pensi a te, pensa. Anche un po' per me.
Salutation avec Adriano Celentano.
La tête.
La démarche scientifique, c'est une démarche qui procède par erreur.
Carré.
On n'a jamais une vérité absolue, on se rapproche de la vérité progressivement et on émet des hypothèses qui demandent à être falsifiées justement pour qu'elles soient scientifiques.
Sur France Inter.
Voilà, Luc Dutet, ça c'est un petit jingle sélectionné pour vous par notre réalisatrice Céline Hila.
Formidable.
Et qui résume bien votre pensée, je crois, la part justement du hasard, entre autres.
Il faut savoir saisir le hasard, savoir l'analyser, le soumettre. Et puis parfois, on a des très bonnes surprises.
Et même dans le domaine du cancer. On en reparlera avec vous dans quelques instants. Vous êtes donc notre invité cet après-midi avec ces deux casquettes de médecin et de chercheur. Vous êtes chef du service de biochimie et biologie moléculaire à Saint-Louis et directeur de l'unité mixte de recherche pathologie virologie moléculaire. Vous êtes professeur à l'université Paris-Diderot. Et vous n'êtes plus à Paris-Diderot?
Je suis au Collège de France maintenant.
Alors c'est ça. Le Collège de France depuis maintenant...
Depuis deux ans.
Deux ans, 2015, votre arrivée. Vous occupez donc la chaire oncologie cellulaire et moléculaire. Et les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages et les questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Alors, le cancer, je le disais tout à l'heure, pour reprendre le titre d'un livre qui est sorti il y a quelque temps, L'Empereur de toutes les maladies. Vous êtes d'accord avec ça?
C'est probablement l'un des groupes de maladies, parce que le cancer n'existe pas. Il faut parler des cancers et ils peuvent recouvrir un peu tous les différents aspects de la pathologie. Ils peuvent toucher tous les tissus, tous les organes. Ils peuvent être d'évolution extrêmement, extrêmement lente, extrêmement rapide, foudroyante parfois. Et donc, il y a une variété dans la pathologie des cancers qui est vraiment tout à fait frappante.
Donc, on doit parler des cancers, bien sûr. Qu'est-ce qui est, au fond, la colonne vertébrale, le point commun entre toutes ces formes différentes de cancer? Est-ce que c'est le mécanisme cellulaire qui est en jeu? Alors, ou pas?
Je pense que le point central, c'est qu'il y a trop de cellules. Et pour être très schématique, il y a trop de cellules, soit parce qu'elles poussent trop vite, soit parce qu'elles ne meurent pas assez. Et on connaît maintenant des exemples de chacun... de très nombreux mécanismes moléculaires. Il n'y a pas un mécanisme moléculaire commun, mais par contre, il y a une conséquence, c'est qu'à la fin, il y a trop de cellules, et c'est justement le fait d'avoir trop de cellules qui crée la tumeur.
Ouais, avec toujours la vie qui est basée sur cette alternance justement de vie et de mort cellulaire. Donc là, il y a tout d'un coup une anarchie dans un sens comme dans l'autre.
Alors, anarchie, c'est peut-être un peu fort. Disons qu'au moins, il y a des déséquilibres. Et parfois, ces déséquilibres qui ont parfois expliqué ce qu'on appelle des états précancéreux ou des tumeurs bénignes, parfois, du déséquilibre, on va verser dans l'anarchie franche. Et on va passer au cancer invasif, au cancer grave.
Oui. Serge Haroche, qui avait justement introduit votre leçon inaugurale donc en 2015, au moment de votre arrivée au Collège de France, disait à quel point le cancer est un mal qui terrorise et qui fascine à la fois. C'est toute la difficulté justement de cerner cette maladie et puis aussi des recherches et des découvertes qui sont régulièrement menées.
Alors je pense qu'il terrorise des gens qui pourraient s'imaginer être de futurs patients. Il fascine effectivement les biologistes parce que de très nombreux mécanismes moléculaires des cellules normales ont été en fond découvertes en étudiant la biologie du cancer. Et la biologie du cancer a apporté énormément à la génétique, à la biochimie, à la biologie cellulaire et de très nombreux mécanismes très fondamentaux de la vie ont été découverts en étudiant finalement ces cellules cancéreuses qui représentent plutôt la mort. On retrouve bien là cette ambivalence et cette ambiguïté que vous signaliez.
Oui. Quelle époque vit-on justement aujourd'hui? Qu'est-ce qui caractérise justement cette période autour de la recherche sur le cancer?
Alors, on vit une période assez extraordinaire qu'on pourrait finalement, dans le domaine des maladies infectieuses, comparer à ce qui se passait dans les années 40. C'est-à-dire qu'on a identifié des maladies, on a identifié des souches bactériennes, on connaît les microbes, et on commence à avoir les antibiotiques. On ne sait pas encore très bien comment les utiliser, ils ne sont pas encore accessibles à toute la population, mais on commence à voir que c'est possible. Et bien, je crois qu'on est tout à fait à la même époque pour le cancer. On a, grâce au progrès de la génétique, identifié des sous-groupes, on a créé des catalogues de maladies qui sont toutes les mêmes, qui sont très homogènes, mais elles sont très nombreuses. On peut même, dans certains cas, dire que certains cancers sont des maladies orphelines. Elles vont toucher moins de 100 personnes par an en France, mais ces 100 personnes vont avoir exactement la même maladie. Et en face de ça, on a donc des anomalies, des systèmes de contrôle de la prolifération, des mutations, des translocations chromosomiques, des accidents que les biologistes connaissent bien. On commence à comprendre l'effet de ces anomalies sur la croissance cellulaire et surtout, on commence à avoir des outils, on commence à avoir des médicaments qui sont capables d'interrompre ces circuits de prolifération. Alors, dans certains cas, l'utilisation de ces médicaments va permettre de guérir définitivement les patients de la maladie. Dans d'autres cas, il va rendre cette maladie chronique. Et donc, le patient va se sentir tout à fait normal, mais il aura toujours quelques cellules cancéreuses, mais qui sont sous contrôle, en quelque sorte. Et puis, dans d'autres cas, on n'a que des rémissions de courte durée. Et c'est bien sûr sur ces situations-là que les chercheurs, les médecins vont travailler le plus pour essayer de transformer, au fond, une petite rémission, une rémission prolongée, voire une guérison.
Est-ce que le ciblage vraiment du cancer avec les thérapies aujourd'hui qu'on essaie de mettre au point, c'est vraiment l'avenir dans le traitement de ces maladies, c'est-à-dire véritablement s'adapter quasiment au cas par cas?
Alors je crois que c'est l'un des avenirs, très, très clairement. Il y a une autre chose dont on parle peu, c'est la prévention. Et la prévention, c'est certainement l'avenir. Parce que déjà, ne pas fumer, éradiquer le tabac de l'espace public, c'est certainement la meilleure chose qu'on puisse faire pour prévenir des cancers. Ouais. Les problèmes de nutrition aussi, on sait, sont extrêmement importants. Donc la prévention, c'est quand même le meilleur moyen de lutter.
On va écouter justement une voix que vous connaissez bien, celle de Mina Bissell, qui est biologiste en Californie.
Bien.
Et elle va nous parler justement d'alimentation.
Il y a des tas de moyens de réduire le cancer. L'un d'eux serait de combattre l'obésité. L'obésité est le pire facteur de risque de cancer. L'une des choses que je conseille, c'est de réduire l'apport en sucre. Le métabolisme est lié à beaucoup de facteurs et l'obésité en fait partie. Et la pire chose, par exemple aux États-Unis, c'est cette obésité omniprésente, parce que les gens ne mangent pas selon les besoins de leur corps. On pourrait réduire la quantité de cancer dans le monde si les gens consommaient plus de fibres, moins de sucre, moins de mauvaise graisse.
Voilà, Mina Bissell, biologiste américaine, à l'occasion de ce documentaire qui avait été diffusé en 2014 sur Arte. Hugues de Thé, alors l'obésité, le sucre, plus généralement l'alimentation, là on a vraiment des éléments qu'on arrive à identifier pour connaître leur impact sur les maladies et sur le cancer en particulier?
Je crois pas qu'on en soit au niveau de connaître l'effet de chaque type
d'aliments.
Ouais. Par contre, il est tout à fait clair que l'alimentation dite occidentale, qui est très riche, qui est, le surpoids qui peut en résulter sont des facteurs de risque indiscutables. Il y a d'autres facteurs qui sont extrêmement importants également, les virus, l'infection par les virus. Alors, un peu moins dans nos pays, mais dans les pays du tiers-monde, a été un facteur absolument majeur de développement des cancers. Et ces virus, on sait, par l'hygiène, par la vaccination, les éliminer. Il y a déjà eu de très remarquables succès dans ce domaine-là.
En Afrique, en particulier,
en Afrique et en Asie, tout à fait.
Donc on a fait le lien direct entre les virus et les cancers. Quel cancer, par exemple?
Cancer du foie. Ouais. L'exemple typique était celui sur lequel Pierre Thiollet a fait de très nombreux travaux à l'Institut Pasteur, le lien entre le virus de l'hépatite B, l'infection chronique par le virus de l'hépatite B et le développement des cancers du foie. C'est une des relations épidémiologiques entre virus et cancer les plus claires. Et des politiques de vaccination menées à la naissance ont permis de faire diminuer très sensiblement l'incidence de ces cancers. Il y a un très grand succès de la médecine.
Ouais. Alors, les grandes luttes contre le tabac, par exemple, vous le disiez tout à l'heure, mais l'obésité aussi épidémie mondiale d'obésité quand même. Là, on a de bonnes pistes pour éradiquer, en tout cas, quelques types de cancers.
Il faut changer, d'alimentation. Mais ouais. Vous savez, changer la culture, finalement, c'est ce qu'il y a de plus difficile.
Ouais. Et donc il faut essayer d'informer au mieux, hein, pour pouvoir convaincre.
Tout à fait. Et puis lutter éventuellement par les voies législatives, hein, contre l'addition de sucre dans toute, ouais, l'alimentation, contre l'alimentation industrielle, hein, qui est très sucrée, très salée, très grasse. Ouais. Et tout ça concourt à ces anomalies métaboliques dont on sait maintenant qu'elles prédisposent un certain nombre de cancers.
Qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec le sucre? Comment ça fonctionne concrètement sur les cellules? Le fait, par exemple, d'avoir un organisme très sucré, est-ce que justement ça a une action sur la multiplication des cellules cancéreuses? Est-ce qu'on arrive
à
savoir?
Très honnêtement, vous me posez une colle, je n'en sais rien. Ouais. Il y a beaucoup de travaux récents sur les liens entre métabolisme et cancer. Au fond, de manière assez logique, le métabolisme d'une cellule qui vit mais ne pousse pas et le métabolisme d'une cellule qui est amenée à se diviser va être différent. Dans un cas, il faut faire des briques, il faut faire des membranes, il faut faire des protéines. Donc, il va y avoir un rééquilibrage du métabolisme profondément différent entre une cellule qui n'a besoin que de vivre et une cellule qui a besoin, elle, de pousser. La première chose, c'est qu'il va falloir qu'elle capte du sucre, hein, parce que c'est effectivement l'énergie la plus facile à utiliser.
Céline sur franceinter.fr nous dit ceci: surmenage, stress, problèmes personnels, est-ce qu'on peut se créer un cancer? Alors c'est presque une question taboue, hein, j'ai l'impression,
c'est
en cancérologie.
Chose, hein, qui est...
Mais les gens se la posent beaucoup, cette question.
Les gens se la posent beaucoup, c'est, ouais, indiscutable. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'évidence médicale ou scientifique pour dire qu'un choc, qu'une émotion, que du stress va provoquer des cancers. On peut voir la chose éventuellement d'une manière inverse. On peut se dire que quelqu'un qui a un cancer latent, qui n'est pas encore diagnostiqué, peut-être que ce cancer va altérer son organisme et que peut-être que ceci va concourir au fait qu'il va se sentir moins bien parce qu'il a une maladie cachée. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure.
Est-ce que le côté multifactoriel, justement, des cancers n'ajoute pas la difficulté, justement, de bien comprendre l'origine de ces maladies?
Bien entendu. Alors, au niveau génétique, vous avez peut-être prévu qu'on en parle tout à l'heure, mais le cancer va venir le plus souvent de l'addition de différentes lésions génétiques. Donc, c'est une maladie qui est essentiellement, au niveau génétique déjà, multifactoriel, qui va venir de la conjonction de plusieurs anomalies dans la même cellule. Et donc, c'est tout ce qui en fait la difficulté, parce qu'il faut arriver à jouer sur tous les tableaux à la fois. Et donc, cette multifactorialité au niveau génétique, on va la retrouver également dans les causes. Alors, un exemple qui était très très bien étudié par les épidémiologistes, c'est par exemple les interactions entre l'amiante et le tabac. Chacun des deux va provoquer des cancers de la plèvre. L'addition des deux est très fortement synergique. C'est un exemple de coopération dans les facteurs déclenchants qui reflète finalement ce qu'on voit au niveau de la génétique.
Hugues Dethé, on se retrouve dans un instant. Vous êtes notre invité avec les questions des auditeurs sur franceinter.fr.
Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait, elle dormait quand elle voulait, ne travaillait jamais. Pareo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi. On ne parlait jamais d'amour, le grand amour. Ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais, jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop.
Amour, Albin de la Simone à l'instant et sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Je pense qu'il ne faut pas compter sur une éradication définitive du cancer. Cette vision des choses ne va pas être très populaire, mais elle est réaliste. Mon but, c'est de réduire les conséquences du cancer autant que possible. De gérer la maladie avec les traitements les moins toxiques possibles, afin de prolonger la vie autant que faire se peut.
Hugues Dethay, on entendait à l'instant Pamela Goodwin, qui était comme vous oncologue à Toronto, dans un documentaire qui avait été diffusé il y a quelques jours sur Arte Futur. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle vient de dire? Finalement, les cancers, on ne va pas éradiquer, on va apprendre à mieux vivre avec moins d'effets secondaires?
Alors, pour certaines tumeurs, très probablement. Pour certains cancers, on les éradique déjà. Et ouais. Donc, il faut effectivement, là aussi, faire une analyse à la carte. Et je pense que la stratégie dont parlait Pamela Goodwin, c'est effectivement faire du cancer une maladie chronique. Et ça, pour certains cancers, on y arrive déjà assez bien aujourd'hui. Il faut les faire la plus chronique possible pour que le patient puisse vivre 5 ans, 10 ans, 15 ans, avec sa maladie, mais vivre quand même.
Ouais. Les problèmes de toxicité, justement, des traitements, ça c'est un vrai problème, avec des chimiothérapies, par exemple, qui ont du mal même à fonctionner. Comment on peut faire face à cela dans les années qui viennent?
C'est une vraie question. Le principe de la chimiothérapie dans les tumeurs extrêmement agressives, comme les leucémies, c'est qu'elle doit être toxique, justement.
Ouais. On va voir avec votre exemple particulier et l'arsenic.
Elles doivent être toxiques pour être actives. Et donc, dans cette stratégie de rendre la maladie chronique, effectivement, souvent avec des approches de chimiothérapie, là, l'objectif est au contraire d'avoir des chimiothérapies qui vont maintenir la tumeur sous contrôle, mais permettre quand même un maintien de la qualité de vie et donc être le moins toxique possible. Ouais. La stratégie, disons, d'éradication et la stratégie de rendre chronique ne sont pas les mêmes, on ne s'adresse pas aux mêmes tumeurs et on n'utilise bien sûr pas les mêmes types de produits.
Mais c'est un vrai problème, ça, pour les patients, hein, qui à partir du moment où ils commencent la chimiothérapie aussi vont parfois basculer dans des conditions de vie extrêmement compliquées.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'on va s'attaquer à la maladie, mais la qualité de vie, elle, par ailleurs, va être très altérée.
Toute la difficulté de la lutte contre le cancer, c'est au fond d'arriver à avoir un index thérapeutique. Un index thérapeutique, ça veut dire faire le plus mal possible à la cellule cancéreuse tout en faisant le moins mal possible à la cellule normale. Dans certains cas, comme celui dont nous parlerons tout à l'heure, de la leucémie premier leucitaire, on y arrive avec une extraordinaire spécificité. On a des médicaments qui vont être hyperactifs sur la cellule leucémique et ne faire pratiquement rien sur la cellule normale. C'est le meilleur exemple. Et puis à l'autre bout du spectre, eh bien, il y a certains types de tumeurs pour lesquels on va être un peu plus actif sur le cancer qu'on est toxique sur les cellules normales. Et là, bien sûr, ça va s'accompagner d'effets secondaires, d'effets toxiques et d'une qualité de vie qui est moins bonne.
Oui. Est-ce que parfois les patients vous demande de ne pas faire de traitement, justement, de ne pas faire de chimiothérapie?
Alors moi, je ne suis pas directement de patient.
Est-ce que ça peut arriver?
Ça arrive, oui, bien sûr.
Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans ces cas-là par rapport à l'évolution même d'un cancer? Parce que est-ce qu'on sait toujours comment va évoluer un cancer, sa vitesse, justement, de propagation?
On ne sait jamais. On ne sait jamais. Chaque cancer est une histoire particulière. Chaque patient va avoir des réponses aussi différente. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est tout l'aspect contrôle par le système immunitaire, qui est quelque chose qui a été découvert il y a quelques années, qui a énormément développé dans ces dernières années, grâce à des succès tout à fait remarquables dans le mélanome. Et là aussi, ce système immunitaire, on sait qu'on peut le réactiver, mais au fond, on ne sait pas très bien ce qui va faire que chez certains patients, il va être extrêmement efficace, et chez d'autres, avec pourtant les mêmes conditions, apparemment les mêmes tumeurs, apparemment les mêmes caractéristiques immunitaires, eh bien, la dérépression du système immunitaire ne va pas donner les mêmes effets thérapeutiques.
C'est compliqué de répondre à ces questions-là, qui sont des questions évidemment légitimes pour tous les patients qui s'engagent dans des traitements. Cette question de Gilbert qui nous dit ceci, un laboratoire de recherche médicale parisien aurait mis au point un moyen de dépister le cancer par analyse du sang des personnes a priori en bonne santé. Est-ce que vous pourriez le confirmer ?
Alors, il existe quelque chose qu'on appelle la biopsie liquide, qui permet, grâce au progrès de la génomique, de séquencer des millions de molécules d'ADN dans le sang. Et une des caractéristiques des tumeurs, c'est que assez souvent, on disait en début de cette émission, les cellules cancéreuses vont pousser, mais elles vont en même temps mourir. Et quand elles meurent, elles vont relarguer leur patrimoine génétique dans le sang. Et donc, un patient atteint d'une tumeur va au fond relarguer en permanence un certain nombre de gènes, et en particulier de gènes mutés dans le sang. Et ces gènes mutés dans le sang, on peut les découvrir. Alors pour l'instant, la technique est surtout utilisée pour le suivi de la maladie, et c'est une technique de plus en plus largement utilisée, très, très fiable, dans des maladies données. Elle va donc permettre de suivre l'évolution, grossièrement, de la masse tumorale. Alors, dans certains états pré-leucémiques, on est aussi capable, directement par la séquence du sang, de trouver ces clones mutés. Je me garderai bien de toute généralisation. Encore une fois, vous l'avez bien dit, le cancer, c'est une juxtaposition de centaines de maladies différentes. Et donc, je crois qu'il n'est pas très raisonnable d'imaginer qu'on va avoir une prise de sang qui va pouvoir faire tout le spectre.
C'est ça, justement. Voilà. Et puis, c'est la question du dépistage précoce, justement. Oui. Est-ce qu'il est intéressant, d'ailleurs, utile, de faire des dépistages de plus en plus précoces? Parce qu'au fond, nous avons tous des cancers en nous.
Je crois qu'il est utile de faire des dépistages précoces si ensuite il va y avoir une thérapeutique très efficace, adaptée. Donc pour certaines maladies sur lesquelles on va savoir agir, oui. Pour celles sur lesquelles on agit moins bien, c'est pas forcément très utile.
Oui, mais on a des cellules qui ne vont pas forcément dégénérer non plus.
Oui.
Qui sont peut-être annonciatrices ou pas de maladies. C'est-à-dire qu'on
plus
on vieillit, est porteur, mais
plus,
sans forcément
plus on vieillit, plus on devient une mosaïque génétique. Et la plupart de nos cellules, même normales, avec l'âge, vont gagner des mutations. Et donc, l'organisme qui était finalement, au départ, génétiquement presque identique, eh bien, avec les années qui s'accumulent, avec les décennies qui s'accumulent, va être constitué de cellules dont certaines portent des mutations. Et certaines sont des mutations qui vont prédisposer au cancer.
Hugues de T, la part vraiment génétique des cancers, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure avec vous, elle est importante dans le large spectre de cette maladie?
Alors je crois qu'il faut distinguer très clairement ce qu'on entend par génétique. Est-ce que par génétique on entend des changements propres à la tumeur, ce qu'on va appeler la génétique somatique? Et là, la part est énorme. Et puis, il y a la partie qu'on appelle germinale, celle qui nous est transmise par nos parents. Et donc, on sait qu'il y a des gènes de susceptibilité au cancer qui peuvent être transmis, mais ils ne sont pas du tout responsables de la majorité des cancers. Et je pense que suivant le type de cancer, on va dire que ça va être de 1% à 10%, mais on est dans cet ordre-là.
Alors justement, est-ce qu'il existe des tests génétiques? C'est Garance qui pose cette question.
Il en existe, encore une fois, pour des cancers spécifiques. Et il y a des hôpitaux parisiens qui ont des consultations d'oncogénétiques qui fonctionnent depuis longtemps et qui sont capables de rendre ce service à la population, en particulier dans le cadre de familles où on a eu des incidences de groupes de cancer ou de même cancer.
Alors on parle de génétique, et puis bien sûr la part épigénétique, elle a aussi un domaine en plein développement.
Tout à fait.
Et là aussi très multifactoriel, parce qu'on parle vraiment de l'environnement au sens très large, la façon dont l'environnement, l'air que nous respirons, l'alimentation que nous avons, le stress, pourrait influencer les cellules mêmes.
Alors là, par épigénétique, on entend toutes les modifications des protéines qui vont entourer l'ADN et réguler l'expression de cette information génétique. Et donc, au niveau fondamental, on a beaucoup progressé dans les 10 dernières années ou 20 dernières années sur la compréhension de ces mécanismes épigénétiques, et on connaît certains cancers rares, mais dans lesquels on sait que la lésion d'origine, ce qui va déclencher le cancer, c'est une modification d'un régulateur épigénétique.
Par exemple,
quel type certaines formes de cancer du cerveau, certaines formes de leucémie.
Ouais. Ouais. Alors ces cancers, pendant très longtemps, ils ont été mal connus. Hein. Comment est-ce qu'on les traitait justement? Et est-ce que ces maladies étaient aussi répandues dans le passé?
Alors on les traitait principalement avec de la chirurgie. Ça a été la chirurgie du cancer a été une des grandes approches. Ensuite, il y a eu les rayonnements, et puis la chimiothérapie est arrivée dans les années 50, avec quelques succès. Et puis elle s'est généralisée ensuite dans l'ensemble des maladies. Alors, le cancer est une maladie qui est essentiellement liée à l'âge. Hein. Le cancer, c'est une maladie du désordre de notre patrimoine génétique, de notre patrimoine génétique qui s'abîme avec l'âge. Et donc, des modélisations mathématiques qui ont été faites dans les années 40-50 ont montré très clairement que l'incidence du cancer, les nombres de nouveaux cas, eh bien, il est proportionnel à l'âge à puissance 5. H puissance 6. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que les mathématiciens qui avaient fait ces analyses en étaient arrivés à la conclusion que cette incidence de l'âge à la puissance 5 ou 6 voulait probablement dire qu'il fallait avoir 5 à 6 lésions génétiques indépendantes dans la même cellule. Eh bien, 50 ans après, les progrès de la génomique, quand on a pu analyser entièrement le patrimoine génétique de ces cellules cancéreuses, eh bien, on s'est aperçu effectivement qu'on était, avec un très grand nombre de mutations, il peut y avoir parfois 500 mutations dans un cancer, mais sur ces mutations, il y en avait 5 à 6 qui étaient centrales, 5 à 6 qu'on va retrouver toujours les mêmes, et c'est celles qu'on appelle les drivers, celles qui vont vraiment provoquer la maladie.
Ouais, il y avait autant de cancers dans le passé ou pas?
On vivait moins vieux.
Au final, on ne savait pas qu'il s'agissait de cancer. Alors on vivait déjà moins
vieux,
ça c'est sûr.
On vivait beaucoup moins vieux. Non, je crois qu'on les diagnostiquait, mais on vivait moins vieux. Et puis les patients mouraient souvent vite, donc...
Les cancers, vous le rappeliez également dans votre leçon inaugurale, U2T, on les trouve partout dans le vivant. L'homme, bien sûr, les animaux, quatre cancers chez les animaux.
Plantes,
et même les plantes, c'est
oui,
ça
oui.
Et le mécanisme est exactement le même?
Souvent le même, oui. Souvent le même. Il y a un certain nombre de cancers spontanés chez les animaux qui représentent exactement les mêmes mécanismes que ceux qu'on a pu découvrir chez l'homme.
Oui. Hugues de T est l'invité cet après-midi de La Tête au Carré. Parcells à l'instant sur France Inter. Mon invité, Hugues de Thé, médecin, chercheur, professeur donc au Collège de France pour nous parler des cancers. Alors, et on va parler de leucémie en particulier avec vous. Sur quelle forme de leucémie, à quelle forme de leucémie vous êtes intéressé exactement, Hugues de Thé?
Je me suis intéressé à une maladie rare qui touche 80 personnes par an en France, qui s'appelle la leucémie aiguë promyélocytaire, qui est une maladie un petit peu unique dans le spectre de la cancérologie parce que elle semble déclenchée par un seul événement génétique. Un seul événement génétique acquis, qu'on appelle une translocation chromosomique. Donc, deux chromosomes qui se cassent, qui se recollent. Et là, à cet endroit-là, l'information génétique est donc altérée. On va avoir un buzz, en quelque sorte. Et ce simple buzz informatique, un bug informatique, va faire que la cellule va se mettre à pousser très vite, très violemment. Et uniquement à cause d'une information. Et dans cette maladie, des collègues chinois ont découvert, un peu par hasard, des effets apparemment miraculeux d'une hormone, l'acide rétinoïque. L'acide rétinoïque, c'est largement utilisé dans le traitement de l'acné. Ouais. C'est une hormone qui modifie la différenciation des cellules, et en particulier des cellules souches. Et puis, quelques années après, la même équipe a découvert l'effet de l'arsenic, hein, le poison bien connu, ouais, celui qui emporte Madame Bovary.
Absolument.
Et donc, en lien et en collaboration avec ses collègues chinois, on a essayé, au fond, de construire un rationnel biologique derrière ces observations, qui, sur des années, sur pratiquement 25 ans, nous ont permis d'établir un modèle qui explique parfaitement, de manière tout à fait logique, presque comme une horloge, hein, dont on connaîtrait chaque rouage, ce que ces deux médicaments vont donner, et puis de mettre au point un traitement rationnel, qui cherche à détruire cette protéine, détruire ce bug informatique, et la destruction de cette protéine fait que la leucémie s'effondre. Elle s'effondre littéralement dans les modèles animaux en quelques jours, chez les patients.
Quel est le pourcentage de réussite alors?
Aujourd'hui, 98% de guérison définitive. Donc ouais. on est
donc,
vraiment...
avec cette association d'acide, oui, rétinoïque et d'arsenic, oui, c'est vraiment la combinaison des deux, c'est qui permet d'obtenir un résultat aussi spectaculaire.
Exactement. Ouais. Exactement.
Est-ce que justement l'étude de cette leucémie très particulière, parce que vous, oui, dites, le nombre de cas est très limité, pourrait aider évidemment à trouver d'autres stratégies thérapeutiques pour d'autres cancers, aussi.
C'est ce que l'on espère, et en particulier, nous avons pu récemment montrer que derrière cette dégradation de la protéine responsable du déclenchement de la maladie, eh bien, il y a une chaîne d'événements que nous avons caractérisée, qui est vraiment responsable de la guérison définitive, et cette chaîne d'événements, sans entrer dans les détails, on est capable de l'activer dans d'autres maladies. Et donc, c'est une des pistes que mon laboratoire et d'autres explorent très activement en ce moment, savoir au fond maintenant que dans ce cas de guérison miraculeuse, on sait exactement quelle est la cascade de signalisation qui guérit, est-ce que cette cascade on peut l'activer, ouais, par d'autres moyens dans d'autres maladies.
Le scientifique emploie ce mot de miraculeux, alors ça c'est étonnant dans votre bouche, Hugues de Thé, non? Parce qu'il n'y a rien de miraculeux puisqu'on l'explique.
Au départ c'était miraculeux, après, ouais, c'est devenu logique.
Voilà. Alors, un extrait du film Alabama Monroe et puis on se retrouve dans un instant.
La chimio ne fonctionne pas. Les tests montrent que la moelle osseuse produit à nouveau des globules blancs déficients. Évidemment, c'est pas une bonne nouvelle. Mais on en avait déjà parlé, et tout espoir n'est pas perdu. On va avancer dans le processus. On va passer à l'étape suivante du traitement, qui est la transplantation de cellules souches. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que dans un premier temps, on va devoir détruire sa propre moelle en augmentant la chimio et les rayons, pour ensuite la remplacer par les cellules souches d'un donneur. Un donneur qui soit le plus proche possible de Mabel. Sachant que malheureusement, les parents ne sont pas acceptés comme donneurs.
Voilà, un extrait donc de ce film Alabama Monroe pour parler alors là, plus largement des leucémies, hein, pas cette leucémie tout à fait particulière dont vous parliez à l'instant, Hugues de Thé. Ça a été aussi dans le domaine du cancer, une maladie, la leucémie tout à fait particulière, d'un point de vue d'abord de la classification.
Alors c'était une maladie, c'est effectivement un groupe de maladies tout à fait particulier, parce qu'il avait un énorme avantage, c'est que la leucémie touche des cellules circulantes et donc on peut la prélever chaque jour. La prélever par chaque jour, ça a permis de la voir, de la regarder, de regarder la morphologie des cellules, de les trier. On sait les trier avec des marqueurs de surface et puis de faire les premières expériences de ce qu'on a appelé la cytogénétique. On va chercher des translocations chromosomiques et dès la fin des années 60, on commence à faire une cartographie de ces différentes maladies, de s'apercevoir qu'il y a des translocations qu'on va retrouver toujours dans la même maladie, d'autres qu'on va trouver dans d'autres maladies. Et donc on commence pour la première fois à entrevoir pas seulement une classification fondée sur la morphologie, en fond sur une photo d'identité, mais vraiment une classification qui commence à être fondée sur la génétique. Et donc dans ce sens-là, l'étude des leucémies a été vraiment un grand précurseur pour la biologie du cancer.
La classification, c'est quelque chose d'important aussi dans le domaine des tumeurs. Il faut vraiment aussi avoir une classification de plus en plus précise pour comprendre comment fonctionnent justement les différents marqueurs.
Tout à fait, oui. Mais c'est beaucoup plus difficile dans le cas des tumeurs solides, pour des raisons pratiques. Ouais. À la fois que les tumeurs solides vont être constituées d'un mélange de cellules normales et de cellules cancéreuses, et puis également, comme je le disais, les anomalies génétiques sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus complexes. On a une anarchie génétique dans les tumeurs solides qui est beaucoup moins présente dans les leucémies. Donc c'est plus difficile.
Hugues Leuthey, vous poursuivez toujours vos travaux autour de cette leucémie très rare là, dont on parlait, ou puisque finalement maintenant on arrive à la soigner de façon très efficace,
on poursuit en fait dans deux grandes directions. D'une part, d'essayer de caractériser cette cascade d'événements moléculaires, cellulaires qui vont permettre l'éradication définitive de cette maladie en réponse au traitement, et puis aussi d'essayer de comprendre ce qui l'a fait naître. On a dit c'est cette translocation chromosomique qui est à l'origine, mais autant on comprend vraiment bien les mécanismes de la guérison, on comprend encore relativement mal les mécanismes qui vont faire que cette protéine va rendre tout d'un coup une cellule immortelle. Et ça nous paraît important peut-être pour trouver d'autres types de tumeurs, d'autres niches dans lesquelles on pourrait avoir le même type de thérapeutique.
Écoutons la voix d'Edouard Anezzo, qui est biophysicien à l'Institut Curie et qui va nous parler justement du hasard et puis aussi du travail sur les modèles animaux.
La probabilité au niveau de la population de développer un cancer change en fonction des comportements. La métaphore la plus proche est celle d'une voiture. Par exemple, si vous faites plus de kilomètres, si vous vieillissez et si votre voiture fait beaucoup de kilomètres, vous avez plus de chances d'avoir un accident. Il n'empêche que si vous entretenez bien votre voiture, à nombre de kilomètres égal, vous aurez moins d'accidents. Et si vous diminuez vos comportements à risque dans le cancer, vous aurez moins de cancer. Dans mon laboratoire, on travaille avec des biologistes qui induisent des mutations cancéreuses dans des souris. On fait 1000 fois la même mutation chez la même souris dans le même type de cellule. Et on regarde pour chaque mutation, est-ce que toutes les mutations vont donner lieu à des cancers? Est-ce que c'est aléatoire? Est-ce que la croissance est aléatoire? Et est-ce que l'aléa augmente selon différentes mutations? Le but des mathématiques, c'est de faire sens à partir de ce chaos et de ce hasard apparent pour en faire ressortir des lois générales qu'on pourra appliquer à des stratégies thérapeutiques.
Voilà, Edouard Anezzo, Hugues Leuthey. Alors là, le hasard, on l'aborde de différentes façons, hein, parce qu'intrinsèquement, on l'a sur le cancer, et puis après, pour le travail du chercheur. Alors, la part du hasard, justement, dans la maladie elle-même, c'est une part importante.
C'est une part importante, c'est une dérive, finalement, c'est une dérive génétique liée à l'âge, et c'est... Dans cette dérive, on va avoir des accidents. Ces accidents sont imprévisibles. Et donc, il y a une part tout à fait essentielle du hasard. C'est cette profonde injustice dans la maladie qui va toucher certains et pas d'autres, quand bien même ils ont le même mode de vie, même dans la même famille, même patrimoine génétique. Effectivement, il y a quelque chose de profondément injuste et de difficile à comprendre dans ce rôle du hasard. Mais le hasard peut également être utilisé pour... au fond, découvrir de nouvelles approches thérapeutiques.
Mais alors, comment on utilise le hasard précisément dans une recherche?
Mon approche personnelle a été toujours de rechercher, grâce à des contacts avec des amis cliniciens, des situations ou des traitements pas non conventionnels, disons, allaient donner des résultats surprenants, au moins sur quelques patients.
L'exemple de l'arsenic, par exemple, utiliser ce poison pour soigner.
Voilà, quand nos collègues chinois, effectivement, m'ont expliqué dans une extraordinaire réunion en 95 à Shanghai, qu'il y avait des produits dérivés des mines et qui étaient capables de guérir ces patients leucémiques, n'en croyez pas nos yeux. Et on s'est tout de suite, avec eux, attelé à essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait bien se passer. Et ça, finalement, nous a occupé pendant plus de 20 ans pour arriver à décortiquer pas à pas le mécanisme de la guérison. Mais ce hasard, ça peut aussi être de traiter un malade pour une maladie, qui a deux maladies, qui a un cancer et une autre maladie, ou qui a deux cancers, de traiter l'un et de s'apercevoir que l'autre maladie va répondre aussi, qui a été à l'origine de certains progrès pour une autre forme très rare de leucémie, de patients qui avaient à la fois une infection par le VIH et cette leucémie. Et le traitement anti-VIH a donné un effet tout à fait spectaculaire anti-leucémique. Et ça a été le début d'une grande histoire sur cette niche-là. Donc, vous voyez, une réponse au départ quand même largement non réfléchie.
Imprévisible.
Imprévisible, mais qu'il faut ensuite, bien sûr, analyser avec toute la rigueur et la méthode de la science.
Merci beaucoup, Hugues Duthé, d'être venu aujourd'hui pour ce dialogue autour de vos travaux en oncologie. Vous êtes, je le rappelle, professeur au Collège de France. Merci beaucoup d'être venu au micro de La Tête au Carré.